Bonjour. Vous allez bien? Quelques-uns vont bien, donc les autres vont pas bien. Mais nous sommes au bon endroit. Amen. Nous sommes là pour écouter et entendre la parole de Dieu. Et essayer d'entendre ce que le Seigneur a à nous dire ce matin. Je vais juste... Prêcher, c'est juste vous guider pour avoir une certaine compréhension de ce que la parole peut nous dire. Mais après, je vous invite fermement à replonger vos regards dans la parole que vous venez d'entendre pour que vous-même vous puissiez l'approfondir. Parce que comme disait Marlène, c'est en se frottant au Dieu, donc en se frottant à sa parole, que nous pouvons comprendre et saisir la volonté de notre Père pour votre vie personnelle, mais aussi pour votre vie spirituelle et votre cheminement. Ce matin, on va lire un passage dans l'épître des Philippiens, donc le chapitre 3. On va voir un peu de lecture, mais... Cette lecture est bonne, c'est la parole. Et vous savez que la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Alors entendre la parole de Dieu va nous fortifier et va faire grandir notre foi. Seigneur, merci pour ta parole, parce qu'elle est vivante, parce que elle touche les cœurs, elle transforme les vies. Merci parce que ta parole nous reprend, parce que ta parole nous corrige. Merci parce que ta parole est Jésus-Christ et qu'il est vivant, qu'il vit en nous et qu'il prie pour nous. Viens ouvrir nos yeux, viens ouvrir notre intelligence afin de saisir, Seigneur, ce que tu veux nous dire ce matin. Au nom de Jésus. Amen. Alors, vous êtes prêts ? Philippiens, chapitre. Voilà, c'est bien, vous suivez. Au reste, mes frères, réjouissez-vous dans le Seigneur. Je ne me lasse point de vous écrire les mêmes choses. Et pour vous, cela est salutaire. Prenez garde aux chiens, prenez garde aux mauvais ouvriers. Prenez garde aux faux circoncis, car les circoncis, c'est nous qui rendons à Dieu notre culte par l'Esprit de Dieu, qui nous glorifions en Jésus-Christ et qui ne mettons point notre confiance en la chair. Voici cependant, j'aurai sujet de mettre ma confiance en la chair. Si quelqu'un autre croit pouvoir se confier en la chair, je le puis bien davantage. Moi, circoncis le huitième jour, de la race d'Israël, de la tribu de Benjamin, hébreu, né d'hébreu, quant à la loi, pharisien. Quant au zèle, persécuteur de l'Église, irréprochable à l'égard de la justice de la loi. Mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Et même je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout. Je le regarde comme de la boue afin de gagner Christ et d'être trouvé en lui, non avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ. La justice qui vient de Dieu par la foi, afin de connaître Christ et la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances, en devenant conforme à lui dans sa mort, pour parvenir, si je puis, à la résurrection d'entre les morts. Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix, ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de le saisir, puisque moi aussi j'ai été saisi par Jésus-Christ. Frères, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière, et me portant vers ce qui est en avant, je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Nous tous, donc, qui sommes parfaits, ayons cette même pensée. Et si vous êtes en quelque point d'un autre avis, Dieu vous éclairera aussi là-dessus. Seulement, au point où nous sommes parvenus, marchons d'un même pas. Soyez tous mes imitateurs, frères, et portez les regards sur ceux qui marchent selon le modèle que vous avez en nous. Car il en est plusieurs qui marchent en ennemis de la croix de Christ. Je vous en ai souvent parlé, et j'en parle maintenant encore en pleurant. Leur fin sera la perdition. Ils ont pour Dieu leur ventre. Ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte. Ils ne pensent qu'aux choses de la terre. Mais notre cité à nous est dans les cieux, d'où nous attendons aussi comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ, qui transformera le corps de notre humiliation en le rendant semblable au corps de sa gloire par le pouvoir qu'il a de s'assujettir toutes choses. Amen. Un passage très riche, un passage où nous aurions tellement de choses à dire et à voir pour encourager notre foi. Mais vous inquiétez pas, ce matin, je n'ai que 35 points à voir avec vous. Ça va aller. Alors, un peu de contexte. L'église de Philippe, à laquelle Paul écrit, fut fondée par Paul lui-même, vers 50 après Jésus-Christ. Au cours de son deuxième voyage missionnaire en compagnie de Silas. C'est pas moi qui le dis, mais c'est Actes 16, versets 11 à 40, pour ceux qui prennent des notes. Et Paul a de nouveau rendu visite à la communauté de Philippe au cours de son troisième voyage. Il entretenait donc des liens particulièrement affectueux avec les membres de cette église. L'épître aux Philippiens est dite de la captivité. Elle fait partie des lettres dans lesquelles l'auteur mentionne qui se trouve dans les chaînes au moment où il écrit. Vous pouvez le voir au chapitre 1, verset 7, chapitre 1, versets 13 et 14. Donc, pour Paul, lorsqu'il a écrit cette lettre, on ne peut pas dire que les circonstances étaient vraiment favorables, mais bien au contraire, elles étaient humainement défavorables. Et pourtant, Paul, à travers sa lettre, ne va pas cesser d'encourager les Philippiens dans leur marche avec Christ. Très important de se souvenir que Paul a écrit cette lettre lorsqu'il était emprisonné. Et je pense que les prisons de son époque ne devaient pas ressembler à celles de nous, d'aujourd'hui. Nous allons voir donc ce matin, avec le texte que nous venons de lire, ce qu'on peut en tirer pour notre foi, l'encouragement que cela peut nous apporter. Nous verrons que pour avancer, comme Paul le dit, il nous faut un objectif et il nous faut trouver des modèles. Je ne sais pas vous, mais quand vous étiez petit, est-ce que vous aviez une idole sportive ? Est-ce que vous aviez une personne à laquelle vous vouliez ressembler ?
Zorro.
Zorro pour Marlène. Et je sais, moi j'en avais pas, mais je sais que ceux qui en avaient, jeunes, lorsque j'allais visiter des amis, ils aimaient avoir des posters de ces personnes-là, les afficher dans leur chambre, et ainsi ils pouvaient s'identifier à ces personnes-là. Moi, je me souviens avoir eu des modèles pour ma vie spirituelle. J'ai eu des chrétiens sur lesquels j'ai pu m'appuyer par rapport à l'image qu'ils renvoyaient de leur mariage. Et cela m'a vraiment aidé. J'ai eu aussi des modèles, à un moment de ma vie, de chrétiens qui marchaient avec le Seigneur de façon fidèle, juste, véritable. Et ça m'a permis aussi de continuer à suivre le Seigneur à travers ces modèles et être encouragé par ce que je voyais à travers eux. Et comme on vient de lire, Paul mentionne ces deux catégories de modèles. Lesquels sont-ils ? C'est très simple. Les bons modèles et les mauvais modèles. Par contre, le point commun entre les deux est le rapport à la croix de Christ. Les bons modèles, comme Paul le dit, ce sont ceux qui sont amis de la croix. Et les mauvais modèles, ce sont ceux qui sont ennemis de la croix. Et nous verrons aussi que la vie chrétienne est une course, une marche, et que pour cela, il nous faut un but. Pour commencer, je voudrais attirer votre attention sur le verset 1, comme moi-même je l'ai été, souligner des vérités pleines d'encouragement pour notre marche équilibrée avec Jésus-Christ. Que nous dit le verset 1 ? Je ne me lasse point de vous écrire les mêmes choses, et pour vous cela est salutaire. Paul ne fait que répéter inlassablement les mêmes choses, parce que la parole ne change pas. La parole est toujours la même, hier, aujourd'hui et demain. Et ce qui est intéressant, c'est de voir ce que le mot « salutaire » veut dire en grec. Le mot « salutaire » en grec, c'est « asphal » ou « asphales », on prononce le « s » à la fin, qui veut dire « ferme », ce sur quoi on peut compter, qui veut dire « certain »,« vrai », suivi de « confirmation ». Et l'origine du mot « asphal » vient de « a », qui est la négation, le négatif, et sphalo, qui veut dire échouer. Donc, être fondé sur la parole, en y obéissant, nous garantit de ne jamais échouer. Sa parole est ce sur quoi on peut compter, et elle est suivie toujours de confirmation. Amen. Comme j'aime le dire souvent, et je vais le rappeler, il n'y a aucune nouvelle révélation ce matin, mais des rappels qui nous permettent de continuer à fonder notre vie sur le roc et sur la parole. Paul dit aussi « Réjouissez-vous dans le Seigneur ». Paul exprime que notre joie provient du Seigneur et non pas des circonstances que nous pouvons vivre. Je vous ai dit que Paul avait écrit cette lettre, hein, dans une prison. Et Paul, pourtant emprisonné, avait compris que sa joie ne dépendait pas des circonstances humaines. Humainement parlant, on ne peut pas dire qu'il avait de quoi se réjouir. Mais Paul avait compris que sa joie était en Christ, et en Christ seul. Cela nous explique que nous devons fonder notre joie à travers des racines qui vont jusqu'à Christ. Et certainement pas dans des circonstances favorables ou non de notre vie. Parce que se passe-t-il quand notre joie dépend de nos circonstances ? La joie va être éphémère, ou quand les choses vont pas, on sera dans la tristesse. En un mot, on va être inconstant. Et nous serons découragés à chaque fois que les choses n'iront pas dans notre sens. Connaître Christ, c'est avoir la joie malgré les circonstances favorables ou non dans notre vie. Les 9 premiers versets que nous venons de lire montrent que Paul a accepté de tout perdre pour gagner Christ. Il a accepté d'abandonner toute confiance en lui-même, dans sa religion, dans les œuvres de sa religion et dans ses propres capacités humaines. Ce qui est marquant, c'est que Paul avait pourtant de quoi s'appuyer sur ses acquis humains. Aujourd'hui, on dirait que c'est quelqu'un de très intelligent, d'un charisme important, et avec de fortes capacités humaines. Et cependant, Paul a reconnu qu'il serait incapable de gagner ou de mériter son salut par lui-même. Quel exemple ! Exemple d'un homme aux yeux des hommes parfait, comme il le dit, aux yeux d'une religion parfaite. Mais Paul a reconnu que tout ça, c'est de la boue. Il a reconnu que tout le mérite revenait à l'œuvre de Christ accomplie à la croix. Paul reconnaît que seule la performance parfaite de Christ, la vie de Christ, les souffrances de Christ, la mort de Christ et sa résurrection lui permettent et lui permettront d'obtenir le salut. Et Paul nous explique d'avoir perdu toutes ces choses et d'avoir renoncé à toutes ces choses sont pour l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ. Cela lui permet de connaître Christ. Le mot connaissance ici, en grec, c'est gnosis. Et son origine vient du mot gonosko, et qui a pour sens une connaissance fondée sur une expérience personnelle. Cette connaissance est bien plus qu'une connaissance superficielle ou intellectuelle. C'est une connaissance approfondie et intime qui demande de passer du temps avec la personne. Je vais vous donner un exemple et vous allez vite comprendre. Je peux dire, je connais mon pharmacien depuis 26 ans. Vous aussi, vous pouvez peut-être le dire, peut-être plus que 26 ans. Et en même temps, je peux dire, je connais Margot, ma femme, depuis 26 ans. Vous en conviendrez que la connaissance que j'ai de mon pharmacien n'a rien à voir avec la connaissance que j'ai de ma femme. Par l'expérience et le temps passé, la communication, le dialogue avec Margot, j'ai appris à la connaître d'une façon bien plus approfondie. J'ai appris à connaître ce qu'elle aime moins, et j'ai pu lier et créer une relation forte. Il en va de même dans notre course avec Dieu. Plus on avance dans notre course et plus notre connaissance de Christ augmente. Plus nous passons du temps à lire la parole, à méditer la parole, à comprendre la parole, mais surtout à obéir à la parole, plus notre connaissance de Christ augmente. Et nous pouvons nous identifier davantage à lui et savoir comment Christ agit. Je ne sais pas pour vous, mais moi souvent, dans les situations de la vie, de tous les jours, j'ai cette réflexion et je me dis, qu'est-ce que Christ aurait fait à ma place ? Ça se fait tous les jours, ça peut être dans la voiture, lorsque quelqu'un m'agace, lorsque quelqu'un me fait une queue de poisson, lorsque j'ai des soucis avec le patron, dans ma vie avec mes enfants, ma femme, avec ma famille, dans la vie avec mes frères et sœurs. En se posant cette question, on peut ainsi réagir et bien réagir. Et donc là, on voit bien que plus on connaît Christ, plus on sait comment Christ réagirait dans telle situation. Et on peut ainsi imiter Christ. Paul avait compris que seule la connaissance de Christ lui permettrait d'avancer en suivant son exemple. Au verset 10, on va relire, il est dit, verset 10, afin de connaître Christ, je vais le lire peut-être juste un peu avant, et d'être trouvé en lui, non avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ, la justice qui vient de Dieu par la foi, afin de connaître Christ et la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances, en devenant conforme à lui dans sa mort, pour parvenir, si je le puis, à la résurrection d'entre les morts. En acceptant de vivre par la foi, ce que Paul nous a très bien expliqué dans les premiers versets, et non pas par la chair et par ses capacités humaines, cela nous permet de connaître Christ. De quelle façon? Grâce à la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances et en devenant conforme à sa mort. Alors, vive la puissance de la résurrection, ça, c'est pour moi. The power, la puissance. Vive la communion de ses souffrances ainsi que devenir conforme à Christ dans sa mort, ça, c'est pour les autres. En tout cas, c'est comme ça que moi je suis. Je ne sais pas vous. Mais c'est vrai qu'on aime la puissance, n'est-ce pas? On aime quand les choses se font parce que Dieu vient nous aider. Mais il ne dissocie pas, Paul, ces deux choses. Au contraire, elles sont liées entre elles. On pourrait dire que, en France, par rapport à nos frères et sœurs qui sont persécutés, dans le monde, que nos souffrances ne sont pas comparables. C'est vrai que lorsqu'on écoute Porte Ouverte et qu'on entend chaque année, en début d'année, le résultat malheureusement des pays les plus persécutés, là je pense que nos frères et sœurs savent de quoi ils parlent lorsqu'ils parlent de la souffrance. Parce que cette souffrance-là qu'ils vivent, Christ l'a vécue aussi à cause de leur foi. Certes, en France, nous ne souffrons pas à cause de notre foi de la même manière que nos frères et sœurs persécutés dans le monde. Alors continuons à prier comme Paul nous le demande, afin que nous puissions en France parler librement encore de notre foi en Christ. Mais si on est honnête, nous pouvons aussi connaître la souffrance lorsque nous proclamons la vérité. Nous pouvons perdre notre travail lorsque nous sommes des personnes honnêtes, lorsque nous demandons de faire des choses malhonnêtes et qu'on refuse. On peut perdre notre travail. Dire la vérité nous fait perdre des amitiés. Dire la vérité et proclamer sa foi peut même aller jusqu'à être rejeté par notre famille. Pour arriver à remporter le prix, Paul nous exhorte à courir. De quelle manière est-ce qu'on doit courir ? C'est encore une question simple comme les bons et les mauvais modèles. De quelle manière est-ce qu'on doit courir? Comment est-ce que vous courez? Non. Vous regardez en regardant vers l'avant. Après, Paul prend aussi l'image de marcher. Et lorsqu'on marche, on marche en regardant vers l'avant. Alors moi, je me souviens quand mes enfants étaient petits, ils avaient une drôle de manière de marcher ou de courir, ou même de faire du vélo. Ils regardaient souvent en arrière. Je sais pas pour ceux qui ont eu des enfants s'ils se souviennent de cela. Et j'arrêtais pas de leur dire, mais arrête de regarder derrière. Et regarde devant, sinon tu vas te prendre un poteau ou un trou et tu vas tomber. Mais ce que j'avais remarqué, c'est quand j'étais derrière eux, c'est à ce moment-là qu'ils se retournaient pour voir si j'étais bien là. Mais quand j'étais devant eux, ils ne regardaient plus derrière. Ils regardaient toujours devant eux et vers l'avant. C'est l'image que Paul nous donne en parlant de la course et en parlant du prix à remporter et en fixant nos regards sur Christ. C'est ce que Paul a expliqué en disant qu'il avait tout abandonné de tout ce qui était de la chair, de tout ce qui était de lui, de tout ce qui était humain, pour s'attacher à Christ et à Christ seulement. Alors oui, pour courir ou marcher, la réponse est simple, il faut regarder vers l'avant, en fixant nos regards vers Christ pour l'atteindre. Connaître Christ nous permet d'avancer sur notre parcours en fixant nos regards vers le ciel, comme Paul le dit à la fin de ce passage, où se trouve notre Sauveur. Paul était conscient qu'en fixant nos regards sur la terre, comme le font les ennemis de la croix, nous ne pouvons pas atteindre le but. Cependant, courir en fixant les regards vers le ciel nous permettra d'obtenir le prix qui est en Jésus-Christ lui-même. Et courir en fixant l'horizon, en fixant le Seigneur, nous permet de ne pas regarder nos pieds, de ne pas regarder à nos circonstances, de ne pas regarder à ce qu'on peut vivre et qui ne va pas forcément. Ainsi, cela nous permet de nous détacher des choses qui peuvent nous retenir sur cette terre. Nous fixons ainsi nos yeux sur cette espérance de la résurrection d'entre les morts. Alors pour terminer, rappelons un peu tout ce que nous avons vu. Paul, à travers cette lettre, nous encourage ce matin à nous dépendre de Christ afin que notre joie soit parfaite en lui. De ne pas dépendre de nos circonstances, de ne pas nous appuyer sur nos forces, aussi grandes soient-elles, de ne pas nous appuyer sur nos biens, nos capacités, de ne pas nous appuyer même sur nos finances, mais toujours de nous appuyer sur Christ, de l'œuvre de Christ à la croix. Nous avons vu ou revu que fonder notre foi, elle doit être fondée sur la parole de Dieu. Connaître Christ nous permet de suivre le modèle parfait. Mais comme nous l'avons vu, cela passe par la communion aussi aux souffrances de Christ et notre identification à sa mort. Mais cela nous permet d'expérimenter aussi la puissance de la résurrection. Parce que c'est la même puissance qui a ressuscité Christ qui nous permettra, qui vous permettra de continuer malgré la souffrance que vous pouvez vivre. Et c'est cette même puissance qui nous permettra de nous dépouiller de notre vieille nature. L'image de la mort, de nous identifier à la mort de Christ, c'est de nous identifier à la mort de notre vieille nature. Et l'image de la résurrection, c'est de s'identifier à cette nouvelle nature que nous avons une fois que nous avons revêtu Christ par la foi lors de notre conversion. Alors, il y a deux façons de courir ou de marcher. Soit nous regardons vers les choses de la terre, et là nous serons des mauvais modèles. Et Paul n'y va pas par quatre chemins. Paul dit que ces mauvais modèles, qui ne regardent qu'à eux, sont destinés à la perdition. Ou soit nous regardons vers les cieux, et là nous serons des bons modèles que d'autres pourront suivre à leur tour. On pourrait dire que Paul est quand même orgueilleux, parce que dans ce passage, il dit « imitez-moi ». Il ne dit pas « imitez le Christ », mais il dit « imitez-moi ». Ce qui montre l'importance que nous avons, nous, en tant que chrétiens, par rapport à peut-être des nouveaux frères et sœurs qui s'approchent du Seigneur, parce que nous pouvons être soit un bon modèle ou un mauvais modèle. Et j'espère que vous voulez être ce bon modèle qui permet d'encourager les autres, qui permet que vous puissiez aider, secourir et que ces personnes-là puissent avancer aussi dans leur foi. Alors j'aime beaucoup les derniers versets de ce chapitre 3 où Paul dit au verset 20 « Mais notre cité à nous est dans les cieux, d'où nous attendons aussi comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ. » Nous savons que nous sommes des voyageurs sur cette terre et que nous faisons que passer. Il dit que nous sommes comme des vapeurs, une vapeur, ou comme les fleurs des champs qui fanent et après on jette. Et Paul avait compris une chose, et c'est, je pense, là sa force qui lui permettait de tenir dans cette prison, dans ces circonstances difficiles, c'est que sa maison n'était pas ici-bas, mais que sa maison était dans les cieux, auprès du Seigneur. L'autre illustration que Paul a donnée, comme je vous ai dit, après la course, qui montre qu'il y a toujours, qu'on doit toujours aussi être en mouvement et pas à l'arrêt, toujours avancer. Il prend aussi l'illustration de la marche. Et je ne sais pas si vous avez bien lu, mais on va le relire. Alors, où est-ce qu'il parle de la marche ? Seulement au point où nous sommes. Alors, hop. Ah, moi, je n'ai pas noté. C'est le verset où il dit que nous, maintenant, marchons d'un même pas. 16, seulement au point où nous sommes parvenus, voilà, oui, merci, verset 16, seulement au point où nous sommes parvenus, marchons d'un même pas. Qu'est-ce que cela veut dire, marcher d'un même pas? La même foi, ensemble, synchrone. Ici, on a deux militaires et je pense qu'ils doivent savoir ce que c'est de marcher synchrone, marcher d'un même pas lorsque ils ont peut-être des manifestations à avoir. Ça montre l'unité que nous devons avoir dans le corps de Christ. Ça montre qu'on ne peut pas marcher chacun de son côté. Ça montre qu'on doit être ensemble, unis, et qu'on doit être là pour s'aider, pour se secourir, pour s'encourager, et d'où l'importance d'être attaché au corps de Christ, d'où l'importance de venir et de partager le dimanche notre foi, mais aussi de partager à la fin du culte nos interrogations, nos difficultés, nos bénédictions, partager les réponses que Dieu nous a données aussi. Il n'y a pas que les mauvaises choses qu'on peut partager, mais on peut aussi encourager les frères et sœurs en donnant des témoignages qui peuvent les fortifier. Alors, pour conclure, comme Paul a pu être un disciple, un apôtre de Christ et un modèle pour les personnes de son époque et pour la nôtre aujourd'hui, puisqu'il nous a laissé des lettres merveilleuses, que nous aussi nous puissions être ces modèles. Ces modèles parce que nous-mêmes, nous suivons le modèle parfait. Le modèle parfait qui est Jésus-Christ. Nous voulons vivre la puissance de la résurrection de Christ. Pour cela, nous devons aussi passer par les souffrances que Christ a vécues. Et nous devons nous identifier dans la mort de Christ, afin de pouvoir retirer, nous dépouiller de la vieille nature pour pouvoir revêtir Christ. En revêtissant Christ, ainsi, nous pouvons être des modèles aux autres et montrer comment marcher dans la foi en suivant le Christ. Alors, je ne sais pas où tu en es, où vous en êtes dans votre foi. Je ne sais pas, vous avez peut-être un point de côté, parce que moi, je ne suis pas un coureur, mais bon, ceux qui courent doivent le savoir. Il paraît qu'il y a des points de côté qui arrivent. Et ça nous arrête. Peut-être que vous êtes fatigué, sans force. Le Seigneur nous rappelle que notre joie, notre force est en lui. Et pour cela, il nous a donné aussi une famille, il nous a donné une église, il nous a donné des frères et sœurs, pour que nous puissions les uns les autres nous supporter, comme dit le Seigneur, mais aussi nous encourager, nous aimer, et ainsi pouvoir vivre la communion de Christ, et ainsi pouvoir ressembler à Christ, qui, comme il l'a dit lui-même, et il allait beaucoup plus loin, il disait aussi, et il dit toujours, d'aimer nos ennemis, de faire du bien à ceux qui nous haïssent. Alors, tout seul, on n'y arrivera pas. On a besoin de modèles. On a besoin de suivre des gens qui suivent Christ, le modèle parfait. Et nous-mêmes, nous pouvons être aussi ce modèle. Je vous propose de prier et que nous puissions demander à Dieu sa grâce.